autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Chantal Laureau.
Elle vivait déjà il y a 100 millions d'années, on pourrait les croire indestructibles. Mais aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques s'inquiètent de leur déclin, voire de leur disparition. Une disparition qui serait synonyme de catastrophe pour l'humanité, car les espèces, sauvages comme domestiques, pollinisent un tiers des plantes que nous consommons. Alors, à quoi ressemblerait un monde sans abeilles ?
Adieu, joli bouquet. Il a du mois de mai. Depuis que les abeilles se sont tues, toute fleur fraîche a disparu.
Une lune de miel, il n'y a pas une ombre au tableau.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan.
Les ouvrières ont construit dans un ordre parfait des milliers de petits tubes en forme géométrique appelées cellules ou alvéoles. Celles-ci sont faites avec de la cire que certaines abeilles fabriquent et façonnent pour leur donner la forme idéale.
Il y a des abeilles primitives qui ne construisent pas de façon aussi régulière. Puis, au cours de l'évolution, certaines abeilles ont appris à mieux construire de façon plus économique. Ce caractère est transmis de génération en génération dans leur patrimoine génétique.
Il ne suffit pas de donner de la voix pour accéder au trône. À coup de dard, à travers la paroi de la cellule royale, elle massacre une première rivale qui n'a pas eu la chance de naître plus tôt.
Dans un pays de tous les temps, vit la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler.
Yves Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de France Bleu Vaucluse à Avignon. Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Et vous publiez avec le dessinateur Jean Solé Les Abeilles dans la petite BD Tech des Savoirs aux éditions Le Lombard. À mes côtés en studio, Lionel Garnery, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, chercheur au CNRS à Gif-sur-Yvette et spécialiste de la diversité génétique de l'abeille. Avant de parler de ce qui menace les colonies d'abeilles, pas seulement en France, mais aux quatre coins du monde, j'ai envie de vous demander pourquoi vous vous êtes passionné pour les abeilles. Yves Lecomte.
Ben moi, ça a commencé quand j'avais 12 ans. J'ai été élevé à la campagne et j'adorais toutes les petites bêtes. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu dans mon école faire un exposé sur les abeilles et j'étais fasciné par ce modèle, par non seulement parce que elles vivaient toutes ensemble, mais parce que ça fait du miel, ça sent bon, elles vont sur les fleurs. Il y a un côté aussi poétique qui m'a attiré et la passion ne m'a jamais quitté depuis lors. Quoi.
Et vous êtes devenu apiculteur très tôt.
Voilà, à l'âge de 12 ans, alors j'étais pas très bon apiculteur, mais il y a des gens très gentils qui m'ont formé jusqu'au jour où j'ai fait une thèse à l'INRA d'Avignon, où il y a un apiculteur qui s'appelle Jean Turcoff, qui m'a initié, ça a été mon maître. Et puis ensuite, j'ai eu cette énorme chance de pouvoir rentrer à l'INRA d'Avignon pour travailler sur la biologie de l'abeille, la communication chimique, les phéromones, et aussi sur le varroa, qui est un acarien.
On en reparlera tout à l'heure.
Qui tue les abeilles. Voilà mon parcours.
Lionel Garnery, on a tous des souvenirs d'école sur les abeilles, mais en lisant la BD d'Yves Lecomte, on réalise qu'on n'a jamais fini de comprendre l'univers des abeilles. Est-ce que c'est cette complexité qui vous a séduit ?
Oui, parce que moi, c'est arrivé beaucoup plus tardivement, hein, c'est lorsque j'ai commencé ma thèse, mais j'étais entomologiste amateur depuis l'âge de 12 ans aussi. Donc c'est au sens large les insectes au départ, et puis ensuite, effectivement, l'abeille m'a piqué lors de ma thèse, et je suis un peu comme Yves Lecomte, c'est vraiment une passion, et c'est un monde complet, en fait, à découvrir, le monde des abeilles.
Qu'on n'a jamais fini d'explorer.
Jamais. Une fois qu'on a commencé à ouvrir une fois une ruche, on ne peut plus la quitter.
Alors Yves Lecomte, entre les abeilles et les hommes, c'est une vieille histoire d'amour. On peut remonter au paléolithique, puisque l'homme a découvert très tôt les vertus du miel.
Oui, tout à fait. Et ça, il y a des traces dans le passé qui nous le prouvent vraiment bien.
Et quelles sont les vertus du miel? Donc antiseptique, contraceptif, substitut au sucre, produit de luxe, il a cumulé les vertus au fil des époques.
Oui, alors oui, parce qu'avant qu'on ait le sucre qu'on a actuellement sur nos tables, il y avait que cet élément, le miel, c'était le seul élément sucré pratiquement, et donc ça avait non seulement un prix, le prix était très élevé, mais voilà, plein de vertus, c'était bon pour la santé, et puis ce n'est que plus récemment que la médecine a validé les vertus du miel, puisqu'on utilise maintenant le miel dans la cicatrisation des plaies dans les hôpitaux.
Yves Lecomte, pourquoi est-ce que les Grecs et notamment Aristote se sont particulièrement intéressés à l'abeille ?
Parce que l'abeille, ça a été pour eux un modèle de socialité qui les a fascinés. Ça a toujours fasciné l'homme, le fait que il y ait une reine qui soit autour de dizaines de milliers d'individus. Ça a toujours fasciné l'homme et ça le fascine encore. Et surtout qu'Aristote était un philosophe. Et voilà. Et même les philosophes ont été très très attiré par ce modèle, à tel point que Carl von Frisch, au siècle dernier, a eu le prix Nobel parce qu'il a découvert la danse des abeilles, qui est quelque chose de fascinant.
On en reparlera tout à l'heure.
En termes de communication.
Alors je vous propose de partir pour les hauts plateaux d'Éthiopie, et plus précisément pour Lalibela, la ville des mangeurs de miel.
Nous sommes ici dans l'église de Bilbila Djurgis. C'est une merveille construite par le roi Caleb. Elle date du 5e siècle, lorsque le roi Caleb s'est converti au christianisme. Ce qui différencie cette église des autres, c'est ce miracle. Quand le roi Caleb a terminé la construction de cette église, pendant la prière, une multitude d'abeilles s'est posée sur le toit. 8 jours plus tard, l'église était inondée de miel.
1600 ans se sont écoulés. Et les abeilles sont toujours là, nichées à 5 mètres de hauteur.
Les abeilles sont les gardiennes de l'église contre les pillards. S'il y a un ou des intrus, elles attaquent. C'est arrivé plusieurs fois pendant la guerre et l'occupation italienne. Ce sont les abeilles qui ont gardé les trésors de l'église. C'est pour ça qu'on surnomme l'église Bilbila Djurgis, l'église gardée par les abeilles.
Extrait du documentaire « Du miel et des hommes » d'Édouard Bergeon. Il existe 20 000 sortes d'abeilles dans le monde, dont un millier en France, et parmi elles, 50 espèces de bourdons. Est-ce que, quelle que soit l'espèce, partout dans le monde, le mode de vie et d'organisation sociale dans la ruche est le même, Lionel Garnery ?
Alors, parmi ces 20 000 espèces d'abeilles, on trouve en fait des espèces qui sont solitaires, et ensuite on va trouver les différents niveaux de socialité. Donc on a des espèces qui sont subsociales, qui vont s'organiser par exemple en bourgade, c'est-à-dire qu'il y a un comportement d'agglomération des femelles qui vont creuser leur nid en fait dans le sol en particulier. Donc elles vont avoir une tendance à former des petits bourgs. Et on arrive jusqu'au niveau social le plus élevé qu'on va observer par exemple chez les bourdons ou chez les abeilles domestiques, où là en fait on va avoir des castes qui se mettent en place et puis des répartitions impoliétiques, c'est-à-dire une répartition des tâches dans la colonie.
Mais ce qui ne change pas, c'est l'habitat, la construction de l'habitat, la façon dont la ruche est conçue.
Si, parce que bon, les solitaires vont simplement faire un trou dans la terre. Et ensuite, elles vont pondre leur œuf au fond en fait, d'un petit tunnel qu'elles vont faire. Et elles vont organiser donc un trou principal et puis ensuite organiser des petits tunnels tout autour où elles vont en fait, pondre leur progéniture. La véritable construction, on va la trouver surtout à partir du moment où on va avoir des espèces qui sont sociales.
Et les abeilles solitaires, on les trouve dans des régions en particulier ou des pays en particulier ou un peu partout ?
On va en trouver un peu partout. L'essentiel, en fait, c'est d'avoir le substrat où elles vont construire leur nid. Et donc, il y en a beaucoup qui vont nicher, par exemple, dans le sol. Et donc, il faut souvent des substrats qui sont sableux. Donc, on va les trouver, en fait, sur des dunes de sable où elles vont construire leur nid. Il y en a d'autres qui vont plutôt profiter des petites aspérités dans les murs ou dans les arbres où elles vont construire simplement un nid tout simple à l'intérieur de ces structures.
Alors, vous, on vous appelle Monsieur Abeille Noire. Quelle est la spécificité de l'abeille noire ?
Alors, on est dans une de ces 20 000 espèces, qui est l'abeille qu'on qualifie de domestique, mais je préfère en fait la qualifier d'abeille mellifère. Parce que mon point de vue de généticien considère que c'est pas une espèce qui est encore totalement domestiquée et qu'elle a encore un côté naturel. Donc cette espèce, en fait, elle couvre l'Europe, l'Afrique et le Proche-Orient. Il y a 26 races géographiques qui ont été décrites, qui correspondent en fait à des adaptations à des climats locaux et à une flore locale. Et parmi ces 26 sous-espèces ou races géographiques, on a l'abeille noire, donc qu'on trouve en fait dans nos régions. C'est-à-dire qu'elle a une aire de répartition qui va du nord des Pyrénées jusqu'à la Scandinavie.
Alors, ce qui est le plus fascinant peut-être chez les abeilles, on l'a dit, hein, c'est leur organisation sociale. Chacune a une fonction bien particulière.
Les ouvrières composent la majorité de la ruche, soit 90 % de la colonie qui peut contenir de 50 000 à 80 000 abeilles lorsqu'à maturité. Dans la ruche, on retrouve l'ouvrière sur n'importe quel cadre parce qu'elle occupe plusieurs rôles dépendamment d'où elle en est dans sa vie, qui dure juste à peu près une trentaine de jours. Quand elle naît, la première tâche de la jeune abeille, c'est de nettoyer sa propre cellule. Ensuite, l'abeille nourrice s'occupe de nourrir les œufs et les larves qui grandissent dans les alvéoles. Puis, l'abeille cirière, ou l'abeille maçonne, commence à produire des pastilles de cire sur ses glandes cirières situées sur la face interne de son abdomen. Puis, quand elle devient plus expérimentée, l'abeille occupe des rôles plus exigeants, comme ventileuse, qui fait circuler de l'air dans la ruche, gardienne, qui protège la ruche des intrusions, ou butineuse, qui ramène des ressources à la ruche.
Extrait du site alvéole.buzz. Alors, abeille butineuse, nourrice, maçonne, ventileuse. Yves Lecomte, il existe combien de fonctions dans la ruche et comment ces fonctions sont-elles dévolues à chaque abeille ?
Alors, en fait, ça dépend de l'âge de l'abeille. Comme on le disait dans le reportage, en fonction de son âge, l'abeille va faire des tâches globalement à l'intérieur de la colonie. Et puis ensuite, quand elle va être aux alentours de 21 jours, quand elle sera âgée de 21 jours, l'abeille va devenir butineuse ou gardienne, donc va assurer des tâches qui sont beaucoup plus risquées pour aller chercher la nourriture pour la colonie.
Mais comment se fait la répartition des tâches ? Comment une abeille devient soit butineuse, soit nourrice, soit gardienne ?
Alors en fait, la première chose, c'est l'âge. Hein, c'est ce qu'on vient de dire. Normalement, elle va passer butineuse à l'âge de 21 jours. Mais en fait, il y a un équilibre entre le ratio de nourrice qui s'occupe donc de toutes les petits, les larves, les immatures à l'intérieur de la colonie et qui les nourrissent, et puis entre les butineuses. En fait, il ne faut pas trop de butineuses parce qu'il n'y aura plus personne pour s'occuper des larves et vice-versa. S'il y a trop de personnes, entre guillemets, mais d'ouvrières nourrices à l'intérieur de la colonie et pas assez d'ouvrières butineuses, eh bien, on va mourir de faim. Donc, il y a un équilibre qui s'opère avec des substances chimiques qui sont émises par les larves. Les larves émettent des substances chimiques qui vont empêcher les nourrices d'aller butiner. Ça veut dire, en fait, restez ici, les filles, parce qu'on a besoin de vous. Et également, les abeilles butineuses vont émettre des molécules qui vont empêcher les abeilles nourrices d'aller butiner. Donc, si jamais il n'y a pas assez d'abeilles butineuses, il n'y aura plus les molécules et les abeilles nourrices vont avoir tendance à aller butiner plus tôt. Vous voyez, c'est très complexe, mais ça marche très bien.
Yves Lecomte, il y a une abeille qui intrigue encore plus que les autres, hein, c'est la reine. Comment une abeille devient-elle reine ?
Alors, on a découvert au siècle dernier qu'il n'y a pas de différence génétique entre une abeille ouvrière et une abeille reine. C'est un œuf fécondé et cet œuf peut devenir soit une ouvrière, soit une reine. Et c'est simplement la qualité de la nourriture qui va déterminer l'avenir de cet œuf.
Donc ça veut dire que certaines larves sont nourries par exemple de gelée royale plus que les autres. On peut les appeler des larves princesses par exemple.
Voilà, alors pendant les trois premiers jours de la larve, toutes les larves vont recevoir la même qualité de nourriture et c'est après trois jours que les larves royales vont recevoir d'une part beaucoup plus de nourriture en quantité et puis de la gelée royale pure. Et c'est le fait que cette gelée royale soit pure, entre guillemets, qui en ait des grosses quantités qui va déterminer la reine.
Alors, la première de ces larves à éclore devient reine et tue les autres larves, c'est bien ça?
Voilà, il y a une compétition. C'est pour ça qu'on a montré que les reines, elles se développent dans leurs alvéoles beaucoup plus rapidement que les ouvrières, parce qu'il y a un avantage à avoir une durée de développement très court, parce que comme ça, si je nais la première, eh bien je vais aller détruire toutes mes rivales qui sont pas encore nées, donc je vais les détruire dans leurs cellules.
Mais si ces larves sont plusieurs à éclore en même temps, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, s'il y en a plusieurs à naître en même temps, eh bien, elles vont se battre à mort pour que, à la fin, il n'y ait plus qu'une reine qui règne sur la colonie d'abeilles.
Lionel Garnery, quel est le rôle du seul mâle de l'histoire, le faux bourdon ?
Alors, il n'est pas tout seul, justement.
Ah !
Parce que la reine est polyandre, c'est-à-dire que la reine va être fécondée par entre 15 et 20 mâles. Et donc une partie de la diversité qu'on observe à l'intérieur de la colonie est liée à la diversité des mâles qu'ont fécondé la reine. Donc il y a cette histoire d'âge dans la répartition des tâches, mais il y a probablement une composante génétique à la répartition des tâches dans la colonie. C'est-à-dire qu'il faudrait une diversité génétique des mâles, et c'est cette diversité génétique des mâles qui va apporter ces composantes. Et c'est dans la complexité de l'assemblage qu'apportent les mâles qu'on va avoir en fait cette diversité dans l'expression des colonies. On peut avoir des colonies qui auront moins de tâches de nettoyage à l'intérieur de la ruche, ce qui va entraîner une sensibilité plus importante aux maladies.
Et quand est-ce que la reine est remplacée ? Qu'est-ce qu'elle devient ?
Alors généralement, soit elle meurt, et dans ce cas, en fait, il y a plusieurs destinées à la colonie. S'il y a des larves de moins de 3 jours, les ouvrières vont pouvoir élever une nouvelle reine. Et dans ce cas-là, il va y avoir un élevage d'une nouvelle reine. La reine va sortir, émerger, sortir pour être fécondée et retourner à l'intérieur de la ruche. S'il n'y a pas, en fait, de larves de moins de 3 jours, on va dire que la colonie devient bourdonneuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de fabriquer une nouvelle reine. Et dans ce cas, en fait, c'est les ovaires des ouvrières vont se développer et elles vont pondre des œufs, mais des œufs qui sont non fécondés, donc qui vont donner des mâles, puisque les mâles, en fait, sont issus d'œufs non fécondés. Et sinon, le processus naturel d'essaimage, c'est simplement lorsque la colonie devient trop importante en taille, il n'y a pas assez d'espace, et donc la reine va avoir du mal à disperser sa phéromone, qui permet en fait le contrôle du développement des ovaires des ouvrières. Et dans ce cas-là, en fait, il va y avoir un essaimage, c'est-à-dire que la reine va partir avec une partie de la colonie, et pendant ce temps-là, en fait, les ouvrières vont élever des nouvelles reines.
Yves Lecomte, est-ce qu'il existe dans le monde animal un mode de fonctionnement, un mode de vie aussi sophistiqué que celui des abeilles ?
Oui, c'est une bonne question. Souvent, on parle des sociétés humaines, hein, avec voilà le président de la République qui serait la reine, etc. Mais je pense qu'il faut pas, certainement pas faire la comparaison. Non, je pense pas qu'il existe de société, en tout cas chez l'animal, aussi sophistiquée que celle des abeilles. Par contre, chez les mammifères, il existe, par exemple, chez les primates, des sociétés chez les singes, par exemple, avec des dominants et des dominés, etc., mais qui sont également très sophistiqués, mais qui n'ont pas forcément les mêmes bases de socialité.
Lionel Garnery.
Alors, si on trouve d'autres exemples, hein, ne serait-ce que les fourmis.
Oui,
chez les fourmis,
c'est vrai.
Évidemment, on a en fait une structure sociale qui est très importante.
Ça.
Et on peut le trouver dans d'autres groupes. Hein. C'est-à-dire que la socialité est apparue plusieurs fois au cours de l'évolution, même chez les insectes, puisque les termites, en fait, sont des groupes qui sont relativement primitifs dans l'arbre des insectes et qui montrent, en fait, des niveaux de socialité qui sont extrêmement importants. Thank you.
Reine des abeilles, c'était Toumani Diabaté et Taj Mahal. Vous écoutez Autour de la question, en immersion aujourd'hui dans le monde des abeilles, grâce à deux chercheurs apiculteurs, Yves Lecomte et Lionel Garnery.
Les abeilles sont aussi les championnes de la communication. Elles se parlent par les antennes, par les odeurs, mais aussi par des danses. C'est ainsi que les butineuses indiquent à leurs consoeurs le bon coin nectar ou à pollen qu'elles ont trouvé. Pour cela, elles décrivent sur le cadre des ronds ou des huit, tout en se mettant à frétiller énergiquement. Pour comprendre, accrochons-nous. Car il faut être aussi doué qu'elle en géométrie. L'angle entre la verticale et la trajectoire de la partie frétillante indique aux autres abeilles la direction exacte à suivre par rapport au soleil. Quant à la fréquence des frétillements, elle donne tout simplement la distance à laquelle se trouvent les fleurs à explorer.
On vient de l'entendre dans cet extrait de l'émission de France 3 Nature Images. Les abeilles ont une façon de communiquer assez étonnante. Yves Lecomte, les abeilles sont-elles capables de parler ?
Elles n'utilisent pas un langage, le même langage que nous, mais oui, elles parlent, elles émettent des vibrations, des sons, quelquefois des sons qu'on n'entend pas, nous, qui sont détectés par des appareils de mesure. Ces sons sont tout à fait bien identifiés. Et pour certains, on sait ce que ça veut dire. Et certains autres sons, c'est vraiment des profils qui sont décrits et on ne sait pas encore à quoi elles servent. Mais oui, on peut le dire que les abeilles ont un langage.
Et ces vibrations correspondraient à des mots, à des notions, à des attitudes, à quoi exactement ?
Alors, à des attitudes, oui, certainement. Il y en a qui sont liés à des attitudes, et ça, on l'a démontré. Mais d'autres sons ou d'autres profils vibratoires qu'elles fabriquent, qu'elles émettent, on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Ça peut être une phrase, ou ça peut être un mot qui veut dire quelque chose dans un contexte bien déterminé. Ça, l'avenir de la science le dira.
Vous avez équipé, je crois, vos ruches de capteurs et de caméras. En quoi ces outils peuvent-ils vous servir également à protéger vos abeilles domestiques ?
Alors, les capteurs et les caméras, c'est pour essayer de décrire ce que c'est qu'une colonie en bonne santé. Actuellement, avec des outils de mesure, on ne sait pas faire ça. Le seul qui est bon pour faire ça, c'est l'apiculteur. Donc l'apiculteur, avec sa fumée, il va ouvrir sa colonie, il va observer, il va regarder si tout va bien, s'il y a de la nourriture, s'il n'y a pas de maladie, etc. Mais à part l'apiculteur, il n'y a aucun outil de mesure qui, à l'heure actuelle, permet de faire ça. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à l'INRA d'Avignon, de mettre un certain nombre de capteurs. Alors ça peut être des balances, des capteurs de vibration, des capteurs de chaleur, etc. Pour essayer de corréler ça avec la bonne santé d'une colonie d'abeilles.
Lionel Garnery, est-ce qu'on peut parler d'une forme d'intelligence chez les abeilles ?
C'est difficile de définir ce qu'est l'intelligence. Si l'intelligence, en fait, la définition de l'intelligence, c'est de pouvoir persister dans son milieu et d'évoluer, oui. Puisque, en fait, elles sont là depuis très longtemps. Ne serait-ce que l'espèce domestique est là depuis 1 million d'années.
Et tout à l'heure, on parlait de 100 millions d'années parce qu'une abeille a été découverte dans un morceau d'ambre vieux de 100 millions d'années.
Voilà, qui est un ancêtre, en fait, l'ancêtre des abeilles. C'est la plus ancienne abeille décrite jusque maintenant. Oui.
Allez-y.
Et donc, si on doit décrire l'intelligence, oui, si l'intelligence, c'est s'adapter à son milieu, oui, elle a su le faire. Le problème est l'évolution du milieu actuel.
Alors justement, voilà qui nous amène à parler du déclin des abeilles, commencé il y a une vingtaine d'années.
Si les abeilles disparaissaient, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Cette célèbre citation, attribuée par erreur à Albert Einstein, a beau être fausse, il n'en reste pas moins que les colonies d'abeilles s'effondrent partout dans le monde. Sans abeilles, fini les pommes, les oignons, les carottes, les citrons, les brocolis ou encore les artichauts. Les rayons des supermarchés d'aujourd'hui se videraient petit à petit.
Le déclin des abeilles par Donald Woser sur lemonde.fr. Lionel Garnery, est-ce que ce que l'on vient d'entendre, est-ce que c'est un scénario plausible ?
Après, c'est une question de croyance. Je pense qu'il y a les moyens de contrer en fait cette évolution. Mais c'est une vérité qu'il y a un effondrement des abeilles.
Dans quelle proportion ?
Extrêmement importante. Par exemple, pour donner un ordre de grandeur sur, ne serait-ce qu'en France, on était dans les années 80 à des pertes de l'ordre de 8 à 10%. Et ça, on peut considérer que ça correspondait en fait à ce qu'éliminait la sélection naturelle. À l'heure actuelle, on est dans des moyennes de 25 à 30% de pertes chaque année.
Yves Lecomte, qui sont les premiers responsables de ce déclin des abeilles ? Est-ce que ce sont les pesticides ?
Alors oui, c'est le grand responsable actuellement, c'est les modifications de l'environnement en général autour des abeilles. Donc une agriculture beaucoup plus intensive, de moins en moins d'espace pour les abeilles, quelles qu'elles soient, que ce soit les abeilles solitaires ou les abeilles sociales. Et puis les pesticides, effectivement. Le combat des apiculteurs a été dur, a été sévère. Avec les scientifiques actuellement, on est tous convaincus que notamment les nouvelles générations d'insecticides sont vraiment catastrophiques pour la survie des abeilles.
C'est ce qu'on appelle les néonicotinoïdes, c'est ça ?
Voilà, exactement.
Et on en est où dans cette bataille pour interdire les néonicotinoïdes ?
Alors, dans cette bataille, je pense que les scientifiques ont fait leur boulot, c'est-à-dire qu'on a montré, regardez dans la presse scientifique, il y a des dizaines, voire plus des centaines d'articles qui montrent que les néonicotinoïdes sont très mauvais pour les abeilles, mais on est dans le domaine du sublétal, c'est-à-dire que ça les tue pas directement, mais ça les tue à petit feu. Et donc ça, nous, les scientifiques, on l'a montré. Maintenant, c'est dans le domaine des politiques. Il faut que les politiques et les associations se fédèrent pour essayer de limiter au maximum l'utilisation de pesticides en agriculture. Bien qu'il faut, aussi reconnaître que quelquefois, c'est pas possible quand vous avez des cultures où dans lesquelles il y a des pullulations de ravageurs qui vont détruire complètement ces cultures.
Lionel Garnery, la loi sur la biodiversité va interdire ces néonicotinoïdes à partir du 1er septembre prochain. Le problème, c'est que des dérogations sont possibles au cas par cas jusqu'au 1er juillet 2020. Donc c'est contre ces dérogations que les scientifiques se battent en ce moment ?
Pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des dérogations. S'il n'y avait que des dérogations et qu'elles étaient légères, on pourrait s'en sortir, mais il y a aussi, on joue sur la définition de ce que c'est qu'un néonicotinoïde. Il y a des nouvelles substances qui viennent de sortir, on les appelle autrement, alors qu'en fait, le principe actif est le même. Alors, je ne suis pas spécialisé, je ne suis pas écotoxicologue, mais effectivement, en fait, il y a un jeu, un bras de fer, en fait, entre les firmes agrochimiques et l'ensemble de l'agriculture, et en particulier les apiculteurs, dans la définition de ce que c'est qu'en fait ces produits.
Yves Lecomte, quels sont les effets concrets de ces substances sur les abeilles ? Elles agissent sur leur fertilité, sur leur système cognitif ?
Les deux. En fait, on a montré que ces substances agissent sur leur mémoire. Vous imaginez une abeille butineuse, elle est en train de butiner sur une fleur qui est intoxiquée. Eh bien, le temps qu'elle fasse son travail, elle se souvient plus comment rentrer à la maison. Donc, elle va mourir dans la nature.
Voilà, si les abeilles ne peuvent plus remplir leur rôle pour la colonie, elles meurent.
Exactement. Et puis, au niveau de la fertilité, effectivement, on a montré, il y a eu des très beaux travaux qui ont montré que ces insecticides néonicotinoïdes ont un effet très, très important sur la fertilité, sur la qualité des spermatozoïdes et sur la quantité, sur leur viabilité.
Alors, autre responsable du déclin des abeilles, les prédateurs. Yves Lecomte, votre bête noire, si j'ose dire, c'est le varroa destructeur.
Oui, le varroa destructeur, c'est un acarien. Vous imaginez un petit crabe que vous voyez en Bretagne, un crabe dormeur, gros comme la main, qui vous suce le sang. Eh bien, là, il peut y en avoir des milliers dans la colonie qui se reproduisent et qui, finalement, tuent la colonie.
Alors comment peut-on protéger la colonie de ce genre de prédateurs justement ?
Alors pour l'instant, on a des techniques de lutte chimique qui sont de la chimie de synthèse ou des molécules plus douces, plus biologiques. Mais si vous voulez, si on ne traite pas nos colonies, elles meurent. Donc c'est vraiment très grave. Et l'espoir actuellement, qui peut-être n'aboutira pas à court terme, mais à long terme, il faut essayer qu'on puisse sélectionner des abeilles qui soient résistantes à ces parasites, ou bien que les abeilles elles-mêmes, et c'est le cas dans quelques populations dans le monde, des abeilles mellifères, résiste naturellement aux varroa.
On parle beaucoup du changement climatique. Lionel Garnery, est-ce que les abeilles en sont aussi victimes ?
Ben oui. En fait, on a parlé des deux causes les plus importantes qui ressortent en premier. Mais ces facteurs, en fait, pris de manière simple, en fait, ne peuvent pas expliquer en fait ces pertes. En fait, il y a des synergies entre différents facteurs. Donc, on a effectivement donc les parasites. Donc, on a parlé là de varroa, mais en fait, le varroa est lui-même vecteur de virus. En fait,
c'est vrai qu'on a oublié les virus. On a parlé des prédateurs, mais on a oublié les virus.
Donc il y a tout un tas d'agents infectieux aussi qui peuvent s'attaquer aux colonies. On a l'effet de l'action directe de l'homme en fait sur les grandes cultures, c'est-à-dire qu'en fait on a un appauvrissement des milieux, donc on va avoir moins de diversité en termes de pollen, et les pollens en fait sont ce qui correspond en fait à l'apport en protéines pour les abeilles. Le nectar, en fait, c'est du sucre, c'est de l'énergie. Et donc, c'est le constituant, c'est le pollen. Et si on n'a pas cette diversité, et en particulier, on a des pollens qui amènent des oligo-éléments, d'autres des vitamines, et si on n'a pas cette complexité, en fait, dans les pollens, on va avoir des abeilles qui sont aussi, en fait, appauvries, et qui vont avoir beaucoup plus de mal à résister, en fait, à d'autres facteurs. Et donc, c'est l'assemblage de l'ensemble de ces facteurs qui fait qu'on a des pertes plus importantes. Le changement climatique, c'en est un aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a des abeilles qui sont, et d'ailleurs, les abeilles sont désorientées, et les apiculteurs qui sont très proches de leurs abeilles, en fait, sont désorientés aussi dans leurs pratiques, parce qu'en fait, on est obligé de modifier nos pratiques, alors qu'on était dans des routines, souvent, en fait, en apiculture.
Ça veut dire que vous devez maintenant davantage intervenir ?
Oui, on ne devrait pas le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas ma notion. Moi, j'ai une approche qui est plutôt naturaliste. J'essaye d'avoir des populations qui s'adaptent progressivement à ce changement. Mais on passe par des étapes, effectivement, où la sélection naturelle va œuvrer de manière plus importante.
Et on a vu en Chine, par exemple, on a vu l'homme polliniser à la place des abeilles, avec des pinceaux. C'est des images assez incroyables. Est-ce qu'en France, ça va aussi arriver ?
Si, en fait, on continue à perdre non seulement notre abeille domestique, qui représente 15% de la pollinisation, hein, les 15 autres pourcents sont apportés par l'ensemble des autres espèces. Mais en fait, ce qui est alarmant, en fait, c'est que ça ne touche pas que les abeilles, c'est que ça touche l'ensemble, en fait, des insectes. Il y a une étude récente, en fait, qui est sortie, comme quoi on avait perdu énormément d'espèces en Europe, d'insectes, d'un point de vue général. Parce que les abeilles sont un grand constituant de la pollinisation, mais il y a d'autres insectes, comme les coléoptères, des lépidoptères, des diptères, en fait, qui participent aussi à la pollinisation.
Des flammes, du vent, des cris, tous les amis des colibris. Regardez le feu sans rien dire, n'avait qu'une idée, s'enfuir. Il restait juste un colibri. incendie. Nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête, il y a du cœur. Dans mon cœur, il y a l'envie. De quoi faire un monde meilleur. De quoi faire un paradis. Ça donne quand même envie de rire, mais dans la poitrine des colibris, y a ce gros cœur comme un ovni, ça clique, ça claque, ça paf, ça chie, derrière le premier colibri. D'autres se sont mis à venir, nous sommes tous des graines de colibri. L'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris, et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris, au paradis. Dans ma tête il y a des cœurs.
Zaz, la légende des colibris, clin d'œil à Pierre Rabhi, infatigable défenseur de la nature. Retour de la question sur les abeilles aujourd'hui avec les chercheurs apiculteurs Lionel Garnery et Yves Lecomte. On a parlé tout à l'heure du déclin alarmant des abeilles, mais en même temps, est-ce que leur longévité exceptionnelle n'incite pas à l'optimisme, Lionel Garnery, puisque depuis des milliers d'années, elles ont survécu en s'adaptant, elles ont su modifier leur comportement pour résister à leurs agresseurs successifs.
Alors oui, n'importe comment, il faut garder de l'espoir. Le problème est l'évolution de la société humaine, c'est l'action de l'homme en fait sur la diversité qui est une catastrophe. C'est-à-dire que son potentiel, par exemple le potentiel de réaction au changement climatique, pour moi, si on laissait faire la nature, ça poserait aucun problème, on aurait une abeille qui survit. Elle est passée déjà par deux glaciations du Quaternaire en Europe, donc elle a survécu en fait à ces glaciations, à ces périodes glaciaires. Le problème c'est que c'est une espèce d'intérêt agronomique, donc elle est manipulée par l'homme, et si l'homme s'oppose à cette résistance naturelle, c'est là où on pourrait avoir une cause importante en fait, de perte.
Parce qu'au-delà de l'abeille, ce qui est en jeu pour vous, c'est la biodiversité dans son ensemble.
Dans son ensemble, oui.
Yves Lecomte, on peut prendre l'exemple des abeilles baptisées hygiéniques. Comment se comportent-elles pour se défendre contre les virus, par exemple ?
Alors les abeilles hygiéniques, elles se défendent surtout contre le varroa. Voilà, ce sont des ouvrières qui détectent que les alvéoles sont parasitées par les varroas et donc qui retirent tout le contenu de l'alvéole ainsi que la petite famille varroa. Et donc ce comportement empêche les populations de varroa de devenir vraiment embêtantes pour les colonies d'abeilles. Donc nous, on travaille beaucoup à l'INRA sur ce caractère-là. Et on veut proposer aux apiculteurs une méthode simple pour que les apiculteurs puissent détecter si leurs colonies sont hygiéniques ou pas. Et donc, comme ça, ils pourront réaliser une sélection sur ce caractère pour rendre leurs abeilles résistantes aux varroa.
Est-ce que vous êtes favorable à l'utilisation des drones ?
C'est-à-dire ?
Pour surveiller, par exemple, ce qui se passe au-dessus de certains champs de pollen ?
Non, j'ai eu l'information que, notamment aux États-Unis, certains chercheurs essayaient de faire des drones d'abeilles pour pouvoir éventuellement un jour prendre le relais des abeilles.
Ah là, c'est les abeilles robots, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et ça, autant c'est marrant au niveau technologique, mais d'abord c'est complètement utopique. Et puis ça montre bien que l'homme finalement est beaucoup beaucoup trop prétentieux, parce que finalement on a besoin des abeilles, on aura toujours besoin des abeilles, parce qu'il y a des plantes qui ont besoin des abeilles pour polliniser. Si les abeilles disparaissent, non seulement on aura des problèmes avec les cultures, donc notre nourriture, mais ce dont on n'a pas parlé, c'est que dans la nature, vous avez plein d'espèces végétales qui ont un besoin total des abeilles pour leur pollinisation. Donc si jamais vous supprimez une espèce d'abeille qui est quelquefois inféodée à une plante, eh bien cette plante, elle va mourir.
Est-ce que c'est vrai que certaines abeilles se sacrifient pour sauver la collectivité ?
Oui, alors vous avez les abeilles, les gardiennes, donc qui viennent vous piquer. Donc voilà, si vous approchez un jour trop près d'une colonie et que vous tapez dessus, par exemple, eh bien vous avez dans cette sur le plancher d'envol de cette colonie des gardiennes qui observent, et puis quand ils vont vous voir approcher, elles vont émettre une molécule, une odeur, et qui va être donc disséminée dans la colonie à l'intérieur de la ruche. Et là, vous avez des soldats qui n'attendent que cette odeur pour sortir et venir vous piquer. Et quand ces soldats viennent vous piquer, ce sont des ouvrières, eh bien le dard reste dans votre peau, avec sur le dessus du dard une petite enveloppe avec un muscle qui va vous injecter le nectar. Et donc quand la gardienne ou le soldat vous pique, eh bien elle perd son dard et elle va mourir dans la nature. Donc elle se sacrifie, oui.
Vous parlez de soldats, elles ont aussi des techniques d'autodéfense assez incroyables aussi, contre le frelon à pattes jaunes par exemple. Vous pouvez nous raconter ?
Ah oui, alors ça dépend de quelles abeilles on parle, mais vous avez des abeilles dans le sud-est asiatique qui vont détecter le frelon à pattes jaunes, et quand celui-ci approche trop près de la ruche, eh bien vous avez quelques dizaines, voire une centaine d'ouvrières qui vont faire une boule autour de lui, et puis le cuire. Elles vont chauffer le frelon jusqu'à 40 degrés, et donc elle résiste à cette température, mais pas le frelon. Et donc elles vont tuer le frelon comme cela. Et puis vous avez sur l'île de Malte, je crois, un autre frelon qui s'appelle Vespa orientalis, qui s'attaque aussi aux abeilles domestiques. Mais elles ont une autre stratégie. Elles vont prendre leur langue et elles vont boucher les orifices respiratoires du frelon pour en quelque sorte l'étouffer. C'est incroyable.
Ah oui, c'est incroyable. Et j'ai vu aussi qu'elles pouvaient se mettre en ligne, en ondulant, pour effrayer le frelon.
Voilà, alors ça, ce sont nos abeilles en France. Malheureusement, c'est la seule chose qu'elles peuvent faire, parce qu'elles n'ont pas le comportement de les cuire ou de les étouffer. Donc elles se mettent à la sortie de la ruche et en fait, elles impressionnent le frelon. Mais malgré ça, si vous voulez, le frelon, de temps en temps, il arrive et il en pique une et il la tue, quoi. Donc c'est pas toujours très efficace. Et malheureusement, pendant ce temps-là, les abeilles, elles peuvent pas aller, au lieu d'aller butiner, elles défendent la colonie et elles peuvent comme ça mourir de faim.
Mais est-ce que ça veut dire que les abeilles en France ou en Europe ont meilleur caractère que les abeilles asiatiques ?
Ça dépend ce que vous entendez par caractère. Si c'est
Quand vous entendez raconter les techniques d'autodéfense bien plus radicales, entre guillemets, que celles de l'abeille en France. Oui, Lionel Garnery, vous vouliez intervenir.
Oui. En fait, le comportement d'emballement, donc simplement en chauffant, c'est un comportement qu'on trouve aussi sur l'aire de répartition de notre abeille. Ensuite, l'étouffement, on va le trouver, alors c'est pas à Malte, mais en fait c'est à Chypre qu'on trouve, et c'est un comportement qu'on va retrouver probablement aussi au Proche-Orient, chez Syriaca. Donc, en fait, c'est parce qu'elles ont été mises en contact avec ce prédateur qu'elles ont développé ces comportements de défense.
Voilà, parce que les prédateurs ont voyagé, en fait. Voyage.
Voilà, en fait, on a des répartitions des espèces différentes. Nous, on a Vespa crabro, en fait, qui est une autre espèce, qui attaque de manière plus solitaire, et donc elles vont plutôt l'emballer et essayer de le piquer. Le problème du frelon, en fait, c'est qu'il a une cuticule qui est extrêmement dure, donc si elles n'arrivent pas à piquer entre les segments, elles vont pas réussir, en fait, à le tuer directement.
Alors, est-ce que l'homme... Yves Lecomte, vous vouliez ajouter.
Moi, j'ai jamais vu d'abeilles emballer des frelons. Par contre, j'ai vu des abeilles emballer la reine. Ça, c'est sûr. Elles ont cette capacité. Alors, si jamais il y a en Europe des abeilles qui sont capables d'emballer les frelons, ça serait intéressant de les sélectionner.
Mais, je vais répondre. Ça ne marcherait pas, en fait, pour le frelon asiatique, hein, parce qu'en fait, il a une technique d'attaque de la colonie qui est complètement différente. Et c'est justement une stratégie qui, en fait, est plutôt une stratégie de siège plutôt que d'attaque directe. Notre frelon local, le Vespa crabro, il s'attaque directement à la plage d'envol où il va venir chercher une abeille, en fait, pour l'emmener, ce qui sera un apport de nourriture, en fait, de protéines pour sa descendance. Le frelon asiatique, il est dos à la ruche. Et il attend les butineuses qui reviennent, ce qui fait que la colonie n'a pas le temps de se rendre compte qu'elle est attaquée. Et donc c'est pour ça qu'elle a beaucoup de mal à pouvoir réagir à ça, parce qu'en fait, elle n'est pas directement sous la pression du prédateur.
Pour revenir à ma question du début de l'émission, qu'est-ce qui se passerait si les abeilles disparaissaient? Est-ce que notre monde serait en sursis ou est-ce qu'il deviendrait juste plus sinistre? Yves Lecomte.
Je pense qu'on mourrait pas de faim parce qu'il y a un certain nombre de cultures comme toutes les graminées qui ont absolument pas besoin d'insectes ou pour se polliniser. Le vent suffit, donc on mourrait pas de faim. Mais effectivement, il y aurait un certain nombre de fruits et légumes qu'on trouverait plus dans notre assiette. Et ça, si vous voulez, ça serait déjà très embêtant. Mais je pense que c'est une espèce de signal d'alarme, quoi, en disant mais voilà, faut qu'on arrête parce que si l'homme est capable de détruire tout ça, ça veut dire que finalement on est fichu, quoi. Donc il faut absolument considérer l'abeille comme un seuil au-delà duquel il faut pas franchir. Il faut absolument les protéger. Si on protège les abeilles, eh bien on protégera forcément l'environnement qui nous entoure et qui nous entoure nous aussi, parce que les pesticides, on les mange, on les respire, etc. Donc il faut qu'on arrête là. C'est ce que ça veut dire.
Et c'est pour ça que vous les appelez les sentinelles de l'environnement dans votre bande dessinée. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Lionel Garnery, chercheur au CNRS, et Yves Lecomte, directeur de recherche à l'INRA. Je renvoie nos auditeurs, Yves Lecomte, à cette jolie BD que vous publiez dans la petite BDTech des savoirs. Les abeilles, les connaître pour mieux les protéger. BD illustrée par Jean Solé. Et je remercie nos confrères de France Bleu Vaucluse qui nous ont permis d'être avec vous en duplex d'Avignon. Merci également à Pauline Verlon-Raison qui a réalisé cette émission et à Caroline Fillette qui m'a aidée à la préparer. Demain, c'est Caroline Lachowski que vous retrouverez à ce micro pour la revue de presse du mois d'avril. D'ici là, restez curieux.